Le journal Adia Chipuku. Merci de nous joindre. Tout de suite, les titres. Une manifestation des expats à Pointe-Noire au Congo-Brazza brutalement réprimée par la police monténégrine. Pourtant, ces anciens soldats de l'ex-Zaïre manifestaient pacifiquement pour pousser le gouvernement de Kinshasa à les rapatrier. 9 soldats auraient été blessés. Référendum constitutionnel, jour J-27. Déjà des campagnes de sensibilisation sur la Constitution se multiplient. C'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée nationale a conduit une forte délégation parlementaire au Bas-Congo. Le point dans cette édition. À Kananga, dans le Kasaï occidental, des jeunes ont trouvé une nouvelle façon de se remplir les poches. Ils rançonnent des transporteurs des marchandises sur longue distance à vélo, chose que ces transporteurs décrivent. Bonjour à tous. Plus de 300 anciens soldats de l'ex-Zaïre ont été brutalement dispersés hier par les policiers congolais de Pointe-Noire. Ces militaires, avec leurs familles, manifestaient pacifiquement devant la gare ferroviaire de cette ville portuaire du Congo-Brazza. Ils se disent être délaissés pour compte dans l'opération de rapatriement vers la RDC. Bilan de cette répression, 9 soldats blessés. Écoutez plutôt le témoignage de l'adjudant Manjambo, ancien soldat de l'ex-Zaïre. Il a été joint de Pointe-Noire par Emmanuel Imbanda.
On est agressé à la gare, on a 9 blessés. Le colonel, le bâtiment, le directeur de la police, il a commencé à nous agresser lui-même. Il m'a donné 3 coups de poing et le capitaine, il est maintenant au lit de l'hôpital. Et les autres, nous nous sommes réunis maintenant à la route de la frontière, dans le riz. Nous n'avons pas de maison avec nos enfants et nos femmes.
Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant que la police vous a dispersé?
Et la police nous a tapé. Maintenant, on attend votre réaction. Nous nous sommes réunis à Cotonou. Nous allons rester là-bas. Nous avons un mot à donner aux autorités de Kinshasa. Ils doivent faire rapidement de nous prendre. Nous sommes prêts à défendre notre pays. Qu'ils se proposent déjà de venir nous prendre. Nous ne sommes pas des ennemis de peuple.
Et puis une première réaction après ces manifestations, la structure militaire d'intégration appelle ses ex-soldats zaïrois à l'apaisement. Selon le colonel Aimé Mbiato, chargé de cette structure, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir les rapatrier. Le colonel Mbiato affirme aussi que ses collègues de Brazzaville continuent à identifier tous les éléments censés être ex-phase. Colonel Mbiato interrogé par Dona Madimba.
Je pense que, au moment où je vous parle, mon collègue de l'autre côté continue donc à identifier tout le monde qui est ex-phase et le moment venu, ils pourront certainement nous communiquer la liste pour qu'éventuellement, à notre niveau, nous puissions peut-être travailler sur l'autorisation de l'autorité pour que nous puissions nous-mêmes entrer en contact avec ces gens, nous puissions nous-mêmes nous identifier aussi et éventuellement procéder à leur rapatriement.
Comment interprétez-vous alors le comportement de ce groupe? Est-ce de l'impatience ou une véritable frustration?
Je ne pense pas que ça soit une frustration. Je pense que les amis qui sont là doivent s'apaiser. Toutes les dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir le rapatrier.
Signalons cependant que nous n'avons pas pu joindre hier le directeur de la police congolaise à Pointe-Noire. Référendum constitutionnel, les préparatifs vont bon train. Déjà, on s'active dans la sensibilisation de la population autour de ce référendum. C'est dans ce cadre qu'une forte délégation parlementaire, avec à sa tête le président de l'Assemblée nationale, séjourne dans le Bas-Congo. Dans le face-à-face qu'il a eu avec les Matadiens hier dimanche, Olivier Kamitatou a axé son intervention sur les options fondamentales du projet de constitution. De Matadi, des précisions avec Pelé Kipelamondo.
Après 15 ans de transition et des périodes dramatiques qui ont émaillé l'histoire de la République démocratique du Congo, le peuple congolais n'a jamais été aussi près des élections comme aujourd'hui. C'est par ce rappel que le président de l'Assemblée nationale a introduit son adresse à la population des Matadi dans la grande salle destinée palace pleine à craquer. Mais le plus dur pour Olivier Kamitatou était de tracer les grandes lignes du projet de constitution que la population du Bas-Congo est appelée à voter par oui ou par non le 18 décembre prochain. Au vu du nombre d'intervenants qu'il y a eu au moment du débat, on peut dire que le numéro 1 de l'Assemblée nationale a réussi les paris. En effet, en peu de temps, l'orateur est revenu sur les points forts du projet de constitution, tels que le nombre de provinces qui est de 25 plus la ville de Kinshasa, cette large autonomie accordée aux provinces dont les dirigeants seront élus et non nommés, la parité homme-femme au sein des institutions, l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise, la responsabilité du gouvernement devant les parlements, etc. Olivier Kamitatou n'a pas non plus manqué d'inviter la jeunesse du Bas-Congo à suivre les bons exemples du premier président de la RDC, j'ai cité Joseph Kasavubu. Et Matadi, Pelé Kipelamondo, Radio Okapi.
Notez qu'après Matadi, la délégation se rendra à Boma et à Tchela, toujours dans le Bas-Congo. Mais bien avant cela, elle a été successivement à Kisantu et Mbanzangungu. Cette sensibilisation au référendum constitutionnel a aussi fait l'objet du face-à-face qui a réuni hier à Kisangani le bureau provincial de la commission électorale indépendante et les journalistes locaux. Au centre des débats, l'implication des professionnels des médias à la sensibilisation au référendum constitutionnel prévu dans moins d'un mois dans le pays. En marge de ce débat, les responsables des radios communautaires de Kisangani ont estimé que les directives de la Haute Autorité des médias sur la campagne référendaire dans les organes de presse sont injustifiées. Jean-Pierre Lifoli, directeur de la radio communautaire Mwangaza, est d'accord pour un travail des médias en synergie, mais ajoute-t-il, les radios communautaires ne doivent pas être considérées comme des caisses de résonance. On l'écoute au micro de Jacques Moukankoulé.
Si il faut travailler en synergie, nous sommes d'accord, mais il faudrait qu'il y ait aussi un principe de réciprocité. On peut produire également des émissions avec les collègues des autres radios qui ont été sélectionnées. On ne diffuse pas, parce que là, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas ça, il faut seulement que ces médias-là travaillent et que nous autres nous soyons comme des caisses de résonance pour rediffuser tout ce qu'on a fait. Voilà, et ça ne nous aide pas à évoluer. Et ça pose également un problème, puisque nous avons budgétisé cette couverture électorale, puisque c'est plus d'une année que nous avons commencé ce travail. Et maintenant, venir les casser sans raison fondamentale, puisqu'on ne nous a pas signifié pourquoi on nous interdit de faire ces débats, puisque nous ne sommes pas capables, puisqu'on craint que ça ne va pas être bien fait. Alors nous allons aussi regretter que la Haute Autorité des médias ait perdu beaucoup d'argent en formant les journalistes.
La stabilité de la RDC est un atout pour le marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Cette conviction, le secrétaire général du COMESA l'a rappelé au gouvernement de la RDC pendant son séjour dans la capitale congolaise. Erastus Mwencha a pour cela rencontré le ministre congolais de la coopération régionale et le président Joseph Kabila. Le secrétaire général du COMESA, le marché commun pour l'Afrique australe, a manifesté la volonté d'envoyer en République démocratique du Congo des observateurs pour les élections, a affirmé mais son point focal en RDC, Palou Pouvalier, qu'on écoute.
Ils ont démontré leur attachement et leur intérêt à continuer à participer aux activités du COMESA, ce qui fait que le secrétaire général n'a pas hésité un seul instant de promettre d'envoyer une équipe de sensibilisation ou une équipe qui devra parler des atouts.
Et quelle est la structure qui va commencer à suivre les avancées du projet dans l'intégration dans le COMESA?
Il n'est pas prévu de structure COMESA en République. C'est chaque État qui met en œuvre le programme du COMESA à travers ses structures habituel. Mais il est vrai, c'est que c'est le ministère de la coopération régionale qui coordonne, qui est l'interface.
Palou Kouvalier, point focal du COMESA en RDC, était interrogé par Donna Madimba. L'actualité, c'est aussi cette plainte des Bayanda ou transporteurs de charges sur longue distance à vélo au Kasaï occidental. Ils subissent des tracasseries de la part des jeunes des villages de territoire de Kazumba et Chikapa. Ces derniers leur exigent de l'argent avant de leur accorder le passage. Cette situation se passe sous l'œil passif des forces de l'ordre et comme si cela ne suffisait pas, les agents de la Direction générale de migration leur imposent aussi l'exhibition de la carte d'électeur sous peine des amendes. Un transporteur se plaint au micro de André Kambala.
Ils ont placé des barrières sur la route pour les travaux collectifs. Ils nous exigent de payer 1000 francs au passage. Et si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas autorisé de demander l'outil afin de travailler. Ils vous rossent sérieusement en complicité avec les agents de l'ordre, dont la DGM, les militaires et les policiers. La DGM exige en plus la présentation de la carte d'électeur. Mais nous nous demandons si vraiment cela est établi partout, de l'exiger alors qu'il n'en est pas encore temps de le faire.
Au bureau provincial de la Direction générale des migrations, on s'insurge contre ce mauvais traitement infligé aux transporteurs. Monsieur Séraphin Moulumba, directeur provincial de cette entreprise, considère tout celui qui exige l'exhibition de la carte d'électeur aux passagers comme faux agent de la DGM. Il promet des sanctions. Séraphin Moulumba, joint au téléphone par André Kambala.
Nous sommes contre cela. Je crois bien que ça veut dire des inciviques déguisés en deuxième pour juste fracasser la libre population. En tout cas, nous restons fidèles et soumis aux instructions du président de la République qui demande la libre circulation des personnes et des biens. Alors nous n'avons jamais demandé à un agent de la deuxième, et par le temps qui court, d'obliger la présence d'une carte d'électeur ou de n'importe quel document aux personnes migrantes. En tout cas, ça veut dire des inciviques qui se sont déguisés en deuxième pour juste fracasser la population.
Encore un bateau bloqué au port de Mbandaka, le MB Jérusalem est tombé en panne avant même d'avoir levé l'ancre. L'armateur se déclare essoufflé pour acheminer le convoi à destination. Dans l'entretemps, c'est le calvaire pour les quelques 100 passagers de ce bateau. 4 d'entre eux sont morts et plusieurs dizaines sont malades. Leur situation humanitaire se détériore de plus en plus. De Mbandaka, correspondance avec Jean-Michel Louboula.
Ils sont plus de 150 passagers à bord de ce bateau qui a quitté Kinshasa début juillet dernier à destination de Bouindé dans la province de l'Équateur. Contacté au téléphone, Madame Solange Maoua, organisatrice du voyage, s'est dit essoufflée pour acheminer le convoi à destination. Ses regards sont maintenant tournés vers les autorités du pays et des personnes de bonne volonté. Dieudonné Nyembo, envoyé spécial de l'armateur venu de Kinshasa.
Actuellement, le moteur a grillé et nous ne sommes plus en mesure de financer. Nous demandons aux autorités compétentes qu'ils puissent nous revenir en aide.
De leur côté, les autorités provinciales se disent également incapables pour le moment de résoudre cette question. Les armateurs qui organisent des convois commerciaux le long du fleuve Congo doivent être conséquents et respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs clients, explique-t-on au bâtiment administratif. Pour leur part, les passagers à bord réitèrent leurs sollicitations à l'endroit de la mission onusienne qui a déjà remorqué leur embarcation à 200 km, c'est-à-dire de Bosson-Djafo jusqu'à Mbandaka. Freddy Mouningue, un des voyageurs du MB Jérusalem.
Nous recurons toujours notre conscience vers la Monique pour demander ces bonnes fois humanitaires qui a participé de cet accord.
Mais la Monique s'est dit également limitée. Depuis le désengagement de la section riverine à Mbandaka, elle ne dispose plus d'unités fluviales pour secourir des bateaux en difficulté sur le fleuve. Pendant ces temps, la nourriture et l'eau potable manquent. Les voyageurs sont maintenant en proie à de diverses maladies, notamment la diarrhée, la toux et le paludisme. Mbandaka, Jean-Michel Liboula Mopolo, Radio Kapi.
Signalons que le MB Jérusalem est le 4e pousseur pris en location qui tombe en panne au cours d'un voyage à Mbandaka. 7h11 à Kinshasa, la suite du journal avec vous, Adet Choupou. Parlons écologie à présent, la destruction de la couche d'ozone préoccupe les professionnels de froid. Un séminaire de formation a été organisé du 10 au 14 novembre afin de sensibiliser les techniciens sur les effets du fréon, habituellement utilisé. Ce gaz peut rester dans l'atmosphère pendant plus d'un siècle en détruisant la couche d'ozone qui nous protège contre les rayons solaires. Reportage Nicole Koudiangela.
Le fréon, appelé couramment R12, est selon les experts un gaz nuisible pour la couche d'ozone. Il reste 120 ans dans l'atmosphère en détruisant la couche d'ozone. Celle-ci protège les êtres vivants contre les radiations ultraviolets. Bon nombre de professionnels de froid ignorent cela. Une illustration, écoutez ce frigoriste de Kinshasa.
Depuis que nos aînés, nos pères ont débuté dans la profession et nous ont appris ce métier, ils ont toujours utilisé ce gaz. Je m'étonne maintenant qu'on dise que ce gaz est nuisible.
Dans le but de les sensibiliser, l'Association des professionnels de froid a organisé une session de formation sous le haut patronage du ministère de l'Environnement. Monsieur Ewar Mouen, consultant d'Ozone, explique.
On a essayé de leur donner les nouvelles techniques, les nouvelles pratiques. Et les frigoristes, dans leurs habitudes, de dégager ou de laisser échapper les CFC dans l'air. Maintenant, ils seront obligés d'utiliser des équipements qui ont été mis gracieusement à notre disposition par le ministère de l'Environnement et le programme des Nations Unies pour l'Environnement.
Cette session a-t-elle été profitable pour les participants? Un participant donne son avis.
Au cours du séminaire, nous avons découvert que le gaz que nous utilisons, le fréon, est nuisible et détruit la couche d'ozone.
Attendons voir s'étendre la formation des professionnels du froid et ce que ça donne en pratique.
L'écosystème de la République démocratique du Congo est menacé d'extinction suite à l'ignorance du code forestier par nos populations autochtones. Il est nécessaire que tout le monde soit sensibilisé à ce propos avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce qu'a déclaré le point focal du réseau de ressources naturelles au Sud Kivu au sortir du séminaire de 3 jours. Ce séminaire a été organisé en partenariat avec le Centre national de développement et de la participation populaire et cela à l'intention de 60 ONG du Sud Kivu investis dans la protection de la nature et l'environnement. Chaque participant a reçu un manuel comme guide pour la vulgarisation des enseignements suivis. Actualité internationale à présent, le président sénégalais Abdoulaye Wade, à qui doit revenir en dernier ressort la décision d'extrader vers la Belgique l'ex-président tchadien Hissène Habré, a déclaré jeudi à Radio France Internationale qu'il ne ferait rien sans consulter l'Union africaine. Hissène Habré a été interpellé mardi à Dakar, où il réside depuis 15 ans, en vertu d'un mandat d'arrêt lancé contre lui par la Belgique. Et puis le gouvernement soudanais annonce le report des négociations de paix avec les rebelles de Darfour. Un haut officiel soudanais a révélé dimanche que l'Union africaine avait ajourné le septième tour des négociations de paix entre le gouvernement soudanais et les rebelles de Darfour, lesquels avaient été prévus pour lundi prochain à Abuja, capitale du Nigeria. Et pour terminer, sachez que 8 membres d'une cellule présumée d'Al-Qaïda en Irak ont été tués dimanche à Mossoul, dans le nord de l'Irak. Certaines sources affirment qu'Abu Moussab al-Zarqawi, considéré comme l'ennemi public numéro 1 de Washington et du gouvernement irakien, se trouverait parmi ses membres. Fin de ce journal, merci pour votre attention. Sachez également que vous pouvez suivre cette édition sur notre site internet www.radiookapi.net et bonne suite de programme.